L'air était-il plus pur avant? Est-ce que la Belgique est un pays très pollué? Comment différencier les polluants des gaz à effet de serre? Est-ce que la pollution refroidit le climat? Voici un exposé scientifique qui va vous donner les clés pour mieux comprendre et faire le point sur ce que savent les chercheurs en sciences de l'atmosphère et ce qu'ils ne savent pas encore. Pollution, tout ce qu'on peut voir, comprendre et surveiller depuis l'espace. Un exposé enregistré au Verpop de Namur le 23 août 2024. Et voici Cathy Clairbeau, professeure en sciences de l'atmosphère et du climat de l'ULB.
Je suis très contente d'être là. C'est la première fois que, enfin, ce n'est pas la première conférence que je fais, mais c'est la première conférence que je fais sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est le cœur de mon travail de recherche. Et donc, vous allez voir qu'on a plein de choses à montrer. Et j'espère que je vais essayer de vous partager mon enthousiasme de scientifique et aussi vous faire comprendre certains challenges qu'on rencontre dans la recherche pour surveiller la pollution. Alors, vous allez voir que j'ai une vue très dézoomée parce que je travaille sur les données satellites. Et donc, ça donne une vision de loin et très global de la Terre. Donc si vous voulez me demander si votre rue est plus polluée que la rue voisine, c'est pas moi qu'il faut demander ça, je pourrais pas vous répondre. Mais donc je vais essayer de vous expliquer d'abord qu'est-ce qu'on entend par la pollution et puis qu'est-ce qu'on peut voir. Alors si jamais vous voulez me contacter après, voilà mon adresse email à l'ULB. Et donc ici je vais vous parler des résultats qu'on a avec toute une équipe en fait, et des résultats qu'on a pour l'étude de la pollution par satellite. Et alors j'ai un autre boulot, je suis aussi échevine à Watermael-Boitsfort, et ça je ne vais pas du tout en parler. Mais donc pourquoi je suis arrivée à être échevine à Watermael-Boitsfort? Parce que à force de voir la Terre et les problèmes de loin, j'avais une sorte de dissonance cognitive de qu'est-ce que je peux faire moi de près concrètement à un endroit. Et donc c'est pour ça que je suis aussi devenue échevine, et encore pour quelques mois. Et puis j'arrêterai et je retournerai à ma vie de scientifique. Alors, comment je suis arrivée à travailler là-dessus? Et en fait, je lisais beaucoup... alors là, je vous fais le roman de ma vie en 5 minutes. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je lisais beaucoup Spirou. Je trouvais ça super, toute l'idée qui est... par exemple, Yoko Tsuno qui allait voir les planètes ailleurs, etc. Et donc ça, on va dire, c'est les choses qui ont éveillé ma curiosité scientifique. C'est pas du tout l'école, malheureusement. J'accrochais pas du tout à l'époque, ni sur les maths, ni sur les sciences. Ce qui m'a fait faire des petits détours avant de commencer les études que j'ai fini par faire. Et donc, je faisais des petits cahiers. Mes journaux de jeune fille à moi, c'était ça, c'était de découper les trucs que je trouvais intéressants dans mon Spirou. Et donc, j'aime bien ce scan-là d'une feuille d'un de mes petits cahiers. J'ai 7 petits cahiers comme ça qui racontent tout ce que je comprenais à l'époque. C'est très rigolo. Et en haut à gauche, c'est marqué, on parle du satellite voyageur. Donc ça, c'est quand j'avais 12 ans. Et ce truc m'a passionnée avec l'idée que sur ce satellite, il y avait une petite plaque en or qui allait raconter à des futurs aliens que le satellite allait rencontrer, que comment était la Terre. Je crois que je l'ai sur la page suivante. Voilà, ça, j'avais représenté le petit dessin. Il y avait pas trop, enfin, j'avais pas trop accès à des photocopieuses, je crois, à l'époque. Et donc, j'avais refait le petit dessin qu'il y avait sur la plaque en or. Je trouvais ça absolument passionnant. Les années passent. Je comprends pas tout de suite que je ferais bien de faire des études de sciences, donc je fais des petits détours. Mais je finis par faire des études de physique à l'ULB et puis à faire une thèse en spectroscopie. Donc ça, c'est un domaine un peu ardu. Ça consistait à mesurer ce qu'on appelle des spectres, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche, de molécules un peu bizarres dont personne n'avait jamais entendu parler, qu'on mettait dans le tube en verre que vous voyez représenté sur cette photo entouré des barres jaunes. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'au cours de ma thèse, j'ai rencontré les personnes qui sont sur la photo là avec moi, la fille à gauche avec son short à fleurs, c'est moi quand j'étais en thèse. Et donc eux, ils travaillaient sur une version plus petite et compacte du gros instrument que vous voyez sur la photo en haut à gauche, et qui allait voler dans l'espace. Et donc ça s'appelle un spectromètre à transformer de Fourier. Et l'idée, c'était de mesurer les molécules qui se trouvent dans l'atmosphère, donc en fait les molécules qui composent l'air. Et donc c'est ça que je fais à temps plein maintenant. Donc l'instrument a mis très longtemps à être lancé, mais maintenant, voilà en fait le cœur de l'instrument, c'est un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et qui vole à bord d'un satellite qui s'appelle METOP, et il y a pour l'instant encore 2 METOP qui volent. Et qu'est-ce qu'ils font, ces satellites? Ils regardent ce qu'on appelle l'émission infrarouge de la Terre. Donc la Terre, c'est une planète qui a une certaine température. Et quand on regarde le rayonnement de la Terre qui passe à travers l'atmosphère, on peut avoir toutes sortes d'informations sur la composition de l'air. Et donc, la petite animation que vous voyez là, vous montre les trois satellites METOP qui tournent. Il y en a encore deux qui fonctionnent pour l'instant. Et donc, on va pouvoir, en fait, en analysant les propriétés particulières de chaque gaz qui sont dans l'atmosphère, c'est vraiment des molécules qui bougent, qui tournent, etc. Chacune a une signature spectrale qui lui est propre. Donc, ce satellite tourne en permanence tout autour de la Terre et fournit, chaque satellite, à peu près 1 200 000 observations par jour. Et donc, ce que vous avez là sur l'image, c'est une seule observation et c'est ce qu'on appelle un spectre atmosphérique. Et donc, nous, c'est ça, l'équipe, ce qu'on fait toute la journée, c'est analyser ces données-là pour comprendre, donc ça c'est à un endroit, une certaine heure, on va savoir les concentrations en fait de CO2, d'ozone, de méthane, les molécules que vous voyez représentées là. Vous pouvez, pour simplifier, c'est un peu comme un code-barre dans un magasin. Bien, grâce au code-barre, vous savez à quel article ça correspond. Bien, nous aussi, c'est comme les code-barres des molécules. Et donc, on va pouvoir les surveiller partout et tout le temps. Et donc, je vais me servir beaucoup des images qu'on a fait avec l'équipe pour vous illustrer ce qu'on voit. Alors, juste pour terminer un peu sur ma vie, moi, je fais beaucoup, beaucoup d'allers-retours Paris-Bruxelles, mais parce que j'ai une équipe à Paris, une équipe à Bruxelles. Paris, j'ai un poste au CNRS dans le centre de Paris. Et à Bruxelles, j'ai un poste à l'ULB dans l'équipe où j'ai fait ma thèse. Et là, on a monté une nouvelle équipe qui fait des études de l'atmosphère avec mon collègue qui s'appelle Pierre Coeur. Bon, juste pour terminer, pour vous dire que moi, dans tous les résultats que vous allez faire, je ne fais plus grand-chose, je cherche surtout les sous pour payer les gens, et ça, c'est les gens qui travaillent avec moi à Paris. Et je leur dois beaucoup, et beaucoup des images que vous allez voir, l'équipe de Bruxelles, à peu près la même taille, beaucoup des images que vous allez voir viennent de ces gens-là. Alors, ce dont je ne vais pas du tout vous parler, c'est les pollutions qu'il y a dans l'eau et dans la terre, par exemple les PFAS et tout ça, je ne connais rien, pas plus que vous, enfin, il y a peut-être d'entre vous qui connaissez les phases. Donc chacun a son domaine de spécialité, et ma spécialité, c'est vraiment l'atmosphère. Et donc ce que je connais bien, c'est ça, c'est la pollution de l'air. Ici, une image de Bruxelles, un jour où il y avait pas mal de particules de pollution. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'on connaît actuellement sur la pollution de l'air, quels sont les challenges, qu'est-ce qui reste à connaître, qu'est-ce qu'on doit surveiller, et quels sont les pays les plus pollués, etc. Alors, je vais commencer par une petite introduction assez rapide sur quels sont les polluants de l'air. Qu'est-ce qu'on parle, enfin, quand on dit les polluants, c'est à quel gaz on fait référence, et aussi d'où ils viennent. Et alors, j'ai choisi de vous montrer plusieurs exemples. Je vais vous montrer comment les fumées des grands feux voyagent. Ça, c'est intéressant parce que ça montre vraiment que la pollution n'est pas que locale. Je vais vous montrer qu'on parvient à voir depuis l'espace certaines molécules qui sont liées à la circulation automobile et aussi à la circulation des bateaux. Je vais vous montrer aussi comment on peut surveiller les activités industrielles et les activités agricoles. Et puis, je vais terminer par un petit mystère. Donc, à peu près chaque conférence que je fais, je terminais par, vous allez voir mon petit mystère, par 2-3 slides en disant, si vous avez une idée de ce que ça peut être, dites-moi. Et en fait, on a fini par résoudre le problème cet été. Donc, vous êtes les tout premiers de la Terre entière à voir mon mystère résolu. Et ça vous laisse tout l'exposé pour deviner ce que je vais raconter. Alors, comment j'ai organisé ça? Ben, vous allez voir, je parle assez vite, donc je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais je vais faire des pauses de temps en temps, et alors je montrerai un petit cartoon comme celui-là de Kroll, par exemple. Et à ce moment-là, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Comme ça, on n'a pas toutes les questions à la fin. Si vous avez des questions brûlantes, vous pouvez me les poser à ce moment-là, et vous pourrez encore en poser à la fin aussi. Alors, juste un petit rappel, mais l'air, c'est essentiellement, ça vous rappelez sûrement de vos cours de secondaire, l'air, c'est essentiellement de l'azote, de l'oxygène et un peu d'argon. Donc, à 99,9%, l'air est composé de ces trois molécules. Ces trois molécules, j'en parlerai plus jamais dans mon exposé. En fait, elles sont tout à fait inertes. Elles sont, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles constituent le fond de l'air. Mais elles ne vont jamais interagir, on ne va pas pouvoir les mesurer, elles ne vont même pas interagir avec mes mesures ni rien du tout. Tiens, mes slides défilent toutes seules, c'est intéressant ça. Ce dont on va parler, ce sont les polluants, donc ceux qui sont représentés ici en gris. Et je vais vous donner des exemples de ce qu'on voit, par exemple, pour le NO2, le SO2, le monoxyde de carbone. Tout ça, c'est des gaz dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vais vous rappeler un peu d'où ils viennent, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces gaz sont présents en concentration très faible dans l'atmosphère, mais ils ont un impact important. Je ne vais pas non plus parler des gaz à effet de serre, sauf un tout petit peu à la fin. Et juste pour vous expliquer bien la différence, les gaz à effet de serre, ils ne sont pas directement nocifs pour la santé. Par contre, ils sont présents partout autour de la Terre et ils vont contribuer au réchauffement du climat. Et donc ça, c'est des gaz qui ont un pouvoir d'absorber la radiation infrarouge important. On les voit bien dans nos données, mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais juste parler des polluants qui, eux, au contraire, sont beaucoup plus localisés. En général, autour d'une ville, ils peuvent circuler un peu, je vais vous montrer ça. Et ils ont un impact directement sur la santé. Alors, comme je ne suis pas médecin, je ne vais pas bien décrire les impacts sur la santé, mais en gros, c'est un impact soit sur le système cardiovasculaire en général, ça peut être aussi favoriser des cancers, etc. Alors, vous allez voir, j'ai l'air un peu inquiétante, mais vous allez voir qu'au niveau de la pollution, il y a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes. On va plutôt dans, enfin, en tout cas, dans nos pays industrialisés, on va plutôt vers on comprend mieux, en fait, en tout ce qui se passe. Alors, sur cette slide-là, il y a un petit listing de tous les gaz qui sont impliqués directement dans la pollution. Et donc, ce dont je vais surtout parler, c'est le monoxyde de carbone. Celui-là, vous le connaissez peut-être un peu parce que c'est celui qui est détecté avec vos détecteurs incendie qu'on doit mettre maintenant sur les plafonds des maisons. Et donc ça, en gros, c'est un bon traceur de pollution. C'est lié à la combustion incomplète des gaz. Il y a le dioxyde de soufre qui est SO2 qui est beaucoup lié à la combustion du charbon. Il y a les dioxydes d'azote NO2 qui, lui, est beaucoup lié au trafic automobile. Et alors, je parlerai aussi des particules. Vous avez ici sur la liste PM2.5 et PM10. Qu'est-ce que ça veut dire, PM2.5 et PM10? C'est la taille des particules. PM10, ça veut dire 10 microns. C'est tout petit, en fait, c'est plus petit qu'un cheveu. Et PM2.5, c'est encore plus petit. Donc, plus les particules sont petites, plus elles peuvent être avalées quand vous respirez, avalées par vos poumons, et elles vont se retrouver dans votre organisme. Et donc, voilà, l'organisme aura ça à gérer en plus que de tout son fonctionnement habituel. Alors ça, c'est tout. Alors en bas, vous avez des petits pictogrammes avec tout ce qui émet ces polluants. Donc ça peut être les industries, le trafic, l'agriculture, etc. On va voir ça un peu plus dans le détail. Et alors, il y a ce qu'on appelle les polluants secondaires. C'est ceux qui sont produits par réaction chimique. Et l'ozone, par exemple, qui est le polluant qu'on va le plus retrouver en été, lui, il est produit par réaction chimique. Donc, en Belgique, typiquement, en hiver, on va avoir de la pollution en particules ou NO2, beaucoup liée au système de chauffage, au trafic automobile, etc. En été, à l'inverse, la pollution, ça va être beaucoup l'ozone. Pourquoi ? Parce qu'il faut de l'ensoleillement solaire, et là où il y en a le plus, c'est au printemps et en été. Et donc, voilà, la pollution, c'est un peu saisonnier. Donc, en hiver, particules et NO2, et en été, plutôt l'ozone. Et dans les deux cas, si ce sont des concentrations trop importantes, ça va avoir un impact sur la santé. Alors, pour les gens qui sont jeunes et en bonne santé, c'est pas tellement un problème. Pour les personnes qui sont plus fragiles, plus âgées, les jeunes enfants, les asthmatiques, etc., c'est à ce moment-là que on va, si ça dépasse certains seuils, on va se retrouver avec des recommandations de rester chez soi, pas faire d'efforts physiques violents, etc. Et donc, d'autres polluants qui sont présents sous forme de gaz vont finir par se transformer en particules. On va voir ça, notamment pour l'ammoniac, qui est un polluant important et qu'on connaissait assez mal jusque-là, et qui va finir par se transformer en particules. Donc, ces trois-là, dioxyde de soufre, donc du SO2, l'ammoniac, sa formule, c'est NH3, et les oxydes d'azote, donc ça, c'est NO et NO2, vont finir par se transformer en particules et contribuer, en fait, aux particules aussi. Alors, si on parle des différentes régions dans le monde, on n'est pas tous impactés de la même façon. Donc, c'est directement relié, on va dire, à la concentration de la population, au taux d'habitants par kilomètre carré. Mais vous voyez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus affectés que d'autres par la pollution, et notamment la Chine et l'Inde, enfin, toute cette partie de l'Asie, et dans une moindre mesure, l'Afrique. Et on va voir un peu ce qui se passe dans ces pays-là. Alors, pour vous donner des éléments de comparaison, ici, le code couleur, c'est le pourcentage de morts qu'on attribue à la pollution sur le nombre de morts global. Et donc, en gros, ça tourne autour d'environ 10% des morts sont directement associés à des niveaux de pollution élevés dans le monde. Donc, ça donne 4 millions à peu près de morts associées à la pollution. Et donc, si on compare ça avec d'autres causes de mortalité, eh bien, ça donne quelque chose comme... c'est à peu près équivalent à la somme des décès associés à l'alcool et au tabac. Donc, c'est quand même un problème de santé publique vraiment très important. Alors, ici, on va regarder un peu ce qui se passe dans les différents pays. Donc, ça, c'est vraiment... une vision à l'échelle globale, ici c'est le nombre par centaines, enfin 100 fois 100, sur 100 fois 100 km² combien en moyenne on observe de morts par an. Et alors, sur cette carte-là, c'est accumulé différents types de polluants. Donc, comme je vous ai dit, les principaux, c'est surtout l'ozone et les particules. En fait, c'est vraiment tout en haut du tableau, on retrouve les particules, celles qui sont le plus difficiles à ingérer pour l'organisme. Ces particules, elles viennent de plein de sources différentes. Et donc ici, dans une ville standard, mais ça va varier selon le taux de développement et selon plein de facteurs, en gros, ces particules, elles peuvent venir de sources naturelles. Donc, par exemple, du sable, ce sont des particules. Des pollens, ce sont des particules. Trafic routier, donc ça peut être les camions, les voitures ou ce que vous voulez. Tout ce qui est production d'électricité, donc les centrales, tout ce qui est chauffage, tout ça, ça contribue beaucoup, et c'est pour ça que les pays d'Asie sont très affectés par ça, beaucoup les petits chauffages de cuisson, les petits dispositifs qu'ils utilisent pour cuisiner, par exemple, c'est extrêmement polluant. Et tout ce qui est en fait de la combustion va générer des particules. La même carte que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, mais avec quel pays est affecté le plus par quel type de particules. Et vous avez ici des codes couleurs. Et vous voyez que ben, en gris, c'est tout ce qui est industrie. Alors, c'est des sommes. En fait, c'est sur le code couleur là, c'est qu'est-ce qui domine. Et juste pour pointer à 2-3 endroits. En Europe, il y a une pollution importante qui vient des procédés agricoles. Donc, c'est tout ce qui est utilisation d'engrais, élevage de bétail, etc. En Asie, ça va être plutôt la combustion, justement, des petits systèmes de chauffage ou de cuisson, etc. En Afrique, c'est beaucoup le sable ou bien aussi la combustion de la biomasse. Et donc, il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, pour défricher les fins quand les cultures sont terminées, pour rendre le champ propre, on va dire, pour une nouvelle culture, eh bien, il brûle les déchets végétaux et ça induit énormément de pollution. Par contre, c'est une manière très peu chère de rendre le champ de nouveau fertile parce que ça dépose aussi des nutriments dans le sol. Mais donc, cette pollution en Afrique, elle est vraiment terriblement liée au brûlage de la biomasse. Ah, j'ai un petit quiz pour vous. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez, sans réfléchir trop longtemps, me dire, est-ce que vous pensez que l'air est plus pollué qu'avant à Bruxelles? D'abord, première question, et puis dans le monde. Et donc, je vais faire peut-être lever le bras ceux qui pensent que l'air à Bruxelles est plus pollué maintenant qu'il y a 30 ans. Eh bien, perdu, il est moins pollué maintenant qu'il y a 30 ans, je vous montre ça. Et donc, ça, c'est un résumé de tous les polluants. Et donc, en fait, la pollution baisse plutôt à Bruxelles. Alors, pourquoi est-ce que, comme beaucoup, vous avez pensé que l'air est plus pollué à Bruxelles? Mais parce qu'on connaît de mieux en mieux les impacts de la pollution sur le corps humain. Et donc, on en parle de plus en plus. Et en plus, vous connaissez les journaux. Quand tu dois faire des grands titres, ils font beaucoup de grands titres. En fait, la pollution baisse. Alors, c'est vrai à Bruxelles, c'est vrai en Belgique en général, et c'est vrai en général en Europe. Pas partout en tout point, mais en gros, la réglementation européenne est assez contraignante. Et donc, il y a toutes sortes de dispositifs différents qui sont mis en place. Donc, c'est une somme de dispositifs, l'isolation des maisons, l'essence qui est plus propre, le shift vers les voitures électriques, tout ça contribue à faire baisser la pollution. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a moins de pollution en Belgique maintenant que ce qu'il y avait avant. Vous pouvez voir que, par exemple, tous les polluants diminuent, en fait. Alors, il y en a qui stagnent un peu. Par exemple, on va voir que l'ammoniac stagne un peu depuis 10-20 ans. Je vais vous montrer que c'est lié à l'usage de fertilisants et on a du mal à le faire baisser. L'ozone stagne un peu aussi. Alors, dans une certaine mesure, c'est vrai aussi dans le monde, mais pas partout de la même façon. Et donc, il y a des pays où la pollution augmente. Et donc, ici, j'ai pris le polluant, justement, délibérément le polluant qui diminue le plus dans le monde, c'est le SO2. Ben, pourquoi? Parce que c'est celui qui est directement associé à la combustion du charbon. Et en fait, l'usage du charbon, heureusement pour nous, diminue dans le monde. C'est de loin le combustible le plus polluant, de très très loin. Il émet du SO2, mais tout un tas d'autres choses aussi. Et donc, vous voyez qu'après avoir, dans les années 70-80, atteint un pic de pollution en SO2, heureusement, ça descend. Alors, il y a d'autres polluants. Par exemple, l'ozone continue à augmenter, l'ammoniac continue à augmenter. Et tous les pays ne sont pas égaux. Et on va voir qu'il y a des pays qui se ressemblent au niveau de la densité de population, mais qui réagissent différemment. Ici, mon exemple, je vous compare la Chine et l'Inde. En fait, en Chine, qui est quand même de loin le pays le plus pollué du monde, notamment parce qu'on délocalise beaucoup d'activités en Chine, Il y a depuis 2012-2013 un truc qui s'appelle le Clean Air Act, et donc ils sont passés à beaucoup de... Donc par exemple, si vous allez à Shanghai, par exemple, il n'y a plus de motos qui fonctionnent à l'essence, c'est toutes des motos électriques. Et donc tout ça fait que la pollution en Chine est en train de baisser assez, assez vite et assez efficacement, tandis qu'en Inde, c'est le contraire. En fait, en Inde, il n'y a pas... Enfin, là, de ce qu'on voit avec mon travail, depuis qu'on travaille sur les données satellites, c'est-à-dire maintenant une vingtaine d'années, je vois vraiment des progrès en Chine et je vois vraiment l'Inde qui est en train de dépasser la Chine. Et donc, je pense que si je refais la même conférence dans 5 ans, je dirais le pays le plus pollué du monde, c'est l'Inde. Et alors, si vous, en fait, peut-être vous vous rappelez de ça, et c'est bien documenté, il y a eu dans le passé des pollutions très importantes en Europe, notamment ici à Londres, avec un pic de morts, je ne sais plus combien il y a une mort associée à ça, mais beaucoup. Et donc ça, c'est... à l'époque, on chauffait encore beaucoup au charbon. Ici, un pic de pollution à Londres, c'est... Si vous avez regardé la série télé de Crohn, il y a tout un épisode sur ça, en fait. Ça commence par ça, sur le pic de pollution à Londres. Et je trouvais ça sympa qu'ils en parlent là. Donc c'est un exemple qu'on cite souvent, nous, en fait, dans nos cours. Et donc, dans les capitales européennes, ça n'arrive plus, ben, essentiellement parce qu'on ne se chauffe plus au charbon. Et si on remonte encore plus loin, ça c'est des collègues à moi qui ont fait ça et je me suis dit que l'idée était excellente. Il y a des suspicions qu'en fait les peintres qui peignaient des beaux paysages du passé, eh bien en fait d'une certaine manière représentaient déjà la pollution. Donc bon, ça c'est, je ne sais pas si c'est avéré ou pas parce qu'on n'a pas de mesures claires à cette époque-là. On est entre 1900 et 1904 pour les tableaux de Monet qu'on voit ici et encore plus vieux pour ici un tableau de Turner sur la machine à vapeur. Mais c'est sûr que les machines à vapeur, au niveau de la pollution, c'était vraiment terrible, quoi. Alors, je passe à mes exemples. Donc, le premier exemple que j'ai choisi, c'est de vous parler un peu des feux. Il y a des grands feux à plein d'endroits de la planète. Et on va voir que ces feux ont beaucoup d'impacts locaux, hein, bien sûr, si c'est près des habitations, etc. Mais ça, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler essentiellement des fumées qui sont transportées et qui sont chargées de plein de gaz. Si on veut, par satellite, voir un endroit du globe où il y a un maximum de gaz émis et qui sont la plupart d'entre eux des polluants directement, eh bien, c'est les fumées des feux. C'est vraiment terrible la concentration des fumées, ce que ça comporte comme gaz et particules. Et donc ça, c'est assez facile pour nous à analyser. On va utiliser vous rappelez mes codes-barres là. On va utiliser le monoxyde de carbone qui est un excellent traceur de feu. Ben, c'est pour ça, comme je vous disais, les détecteurs incendie, ils détectent le monoxyde de carbone. Et donc les feux, ça produit des tas de gaz qui ne vont pas rester longtemps dans l'atmosphère. Le monoxyde de carbone, il a comme propriété de rester quelques semaines dans l'atmosphère. Et donc, il va avoir le temps de circuler en partie autour de la Terre. Et donc, si on fait, par exemple, ça c'est typiquement le genre de carte qu'on fait souvent avec nos satellites, c'est les concentrations de monoxyde de carbone partout autour de la Terre. Et l'échelle ici, plus c'est rouge, plus les concentrations sont importantes. Et on voit des pics de concentration à des endroits où il y a tout le temps des feux ou du brûlage. Et donc typiquement en Chine, parce qu'il y a encore beaucoup d'industries et de choses qui consomment en fait des substances qui vont dégager du monoxyde de carbone. Donc on voit très très bien la Chine sur cette carte. On voit beaucoup l'Afrique. Et si je vous faisais la carte saison par saison, vous verriez que ça suit en fait les périodes de saison sèche et saison humide. Et en fait, ça, c'est les brûlages pour défricher les champs dont je vous ai parlé. Donc, c'est vraiment ça. À la fin de chaque saison de récolte, on a des dizaines et des dizaines, enfin des centaines et des centaines de brûlages de biomasse qui vont conduire à une pollution permanente, en fait, dans cette partie de l'Afrique. Et ça monte et ça descend en fonction des saisons. Et alors, on voit aussi, dans une certaine mesure, la déforestation en Amazonie. Qui est aussi pendant toute une période de l'année un problème important parce qu'on a ce poumon de la planète qui part en partie en fumée. Alors ici, c'est une moyenne sur en fait, toutes les années d'observation de l'instrument YASI, qui est l'instrument qui vole à bord du satellite que je vous ai présenté. Et donc, ben voilà, c'est, typiquement, ça ressemble à ça. Par contre, si c'est l'été ou si c'est l'hiver, ça va changer un peu. Et je vais vous montrer des exemples, faire un zoom sur quelques endroits du globe quand il y avait eu des feux exceptionnels. Alors, je vais commencer par, dans l'hémisphère sud, les feux les plus importants depuis que je travaille sur cette mission satellite, donc il y a une vingtaine d'années, ce sont des feux qui ont eu lieu à la fin de l'année 2019, qui ont débordé sur 2020 en Australie. Très, très, très impressionnant, vu par satellite. Et donc ici, je vous montre par exemple des moyennes qu'on a fait avec 3 jours d'observation. Et ce qu'on peut voir, en fait, vous avez donc c'est la Terre vue d'en bas, ce que vous voyez, c'est l'Antarctique, et vous avez l'Australie qui est en haut, là. Et ce qu'on voit, c'est vraiment les fumées qui font le tour de la Terre. Donc, vous voyez, on a exprès pris un moment où on voit, voilà, de manière saccadée, les fumées reviennent quasi à leur point de départ et font le tour de la Terre. Alors, c'est vraiment impressionnant qu'on puisse voir ça par satellite. En fait, on voit vraiment la fumée qui se balade. Et vous voyez, à un moment, ça touche les bords de l'Antarctique. Et on a des collègues qui sont allés faire des prélèvements de la glace en Antarctique, un peu après, enfin, dans les mois qui ont suivi. Et ils ont bien trouvé, en fait, des dépôts de traces noires de fumée. La glace est complètement blanche. Et donc, ils ont bien trouvé aux endroits où on voyait vraiment les fumées qui atteignent le bord dans l'Antarctique, ils ont vu des dépôts de fumée. Alors, plus récent, les grands feux qui ont eu lieu l'année passée, ça a recommencé cette année, mais je pense qu'ils sont quand même un peu moins importants au Canada. Donc il y a 4% des forêts canadiennes qui ont brûlé l'an passé. Et ces feux ont duré 3 mois, donc super, super important. Alors juste pour vous dire, les feux, il y en a partout et tout le temps. Ils sont souvent allumés par des éclairs. Et donc tous les étés, on voit soit en Sibérie, soit en Alaska, soit au Canada, des feux qui se propagent. Et donc, c'est beaucoup dans des zones non habitées, sauf que les feux comme ceux du Canada, ils finissent par atteindre des zones habitées. Et donc, ça pose évidemment des problèmes aussi. Et donc, juste pour vous montrer comme les fumées se déplacent beaucoup, vous avez sur cette animation les feux canadiens et on voit que les fumées traversent l'océan Atlantique et atteignent l'Europe. Et donc, nous, on a par exemple un sondeur sur le toit de l'université à Paris et qui mesure des tas de gaz. Et là, on voit ces jours-là le monoxyde de carbone qui passe au-dessus de notre tête à Paris. Donc, ça veut dire que la pollution... Alors là, j'ai pris le monoxyde de carbone. Il reste assez longtemps dans l'atmosphère, donc il peut voyager. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les vents vont permettre aux fumées de tourner autour de la Terre en à peu près 2 semaines. Donc, vous avez de la pollution qui peut venir des feux des États-Unis qui voyagent. Ben voilà, là, ça se disperse en fait partout autour de la Terre. Ça va rester dans l'hémisphère nord parce qu'il y a une sorte de barrière dynamique à l'équateur qui fait que ça va mettre trop de temps à passer dans l'hémisphère sud. Donc, ça va rester dans l'hémisphère nord, mais ça peut tourner tout autour de la Terre comme ça. Si vous imaginez ça, vous pouvez vous dire aussi que la pollution qui vient de Chine, elle va tourner dans le même sens. Elle va passer par la côte ouest américaine, côte est, et puis arriver jusque chez nous éventuellement. Et donc, ces grands feux-là, ben, ils ont généré une pollution énorme dans plusieurs villes aux États-Unis. Vous avez sûrement vu dans les médias ces images, par exemple de New York, sous la fumée des feux canadiens. Et donc, en haut, c'est la photo de la Statue de la Liberté sous les fumées. Et en bas, c'est l'image des fumées vues avec le satellite à travers le suivi de cette molécule, le monoxyde de carbone. Alors, j'ai mentionné la forêt en Amazonie. Et ici, ma slide la plus politique de toute la présentation, c'est de comparer en fonction des différents gouvernements en place qui a brûlé le plus de forêts en Amazonie. Et on voit que le bilan de Bolsonaro n'est pas très bon. Et donc, ça, c'est effectivement Lula qui est redevenu président. Donc, on verra ce que ça donne la prochaine période à surveiller. Ben, c'est juste après cet été-ci. Donc, dès qu'on sera au mois d'octobre, on refera la même carte. Et on voit qu'en fonction des présidents qui sont en place, ben voilà, le niveau de déforestation n'est pas le même. Est-ce que quelqu'un a une question à ce stade-ci? Oui. Oui, ben c'est une bonne question. Alors en fait, c'est un des inconvénients de faire de la mesure par satellite, c'est que nous, on voit le satellite, il fait comme s'il regardait la Terre, et donc ce qu'on voit, c'est une colonne d'air. Donc nous, on a du mal à dire à quelle altitude c'est. Par contre, les mesures, par exemple, comme celles qu'on a sur le toit de la fac, eux vont pouvoir dire en fait à peu près à quelle altitude est le panache de fumée. Et donc ça dépend, en fait ça va dépendre des vents, parce que l'image que j'ai montrée juste avant, là par exemple, donc les vents ont rabattu la pollution jusqu'en bas. Par contre là, quand elle passe au-dessus de l'océan Atlantique, là, elle est forcément à 4-5 km d'altitude, parce que sinon elle serait dispersée dans la mer. Et donc ça dépend vraiment des vents, en fait c'est le panache de fumée est poussé par les vents, et va descendre ou monter selon les vents, et voilà. Mais c'est une bonne question. Alors, je passe à mon deuxième petit sujet. Si on veut surveiller le trafic automobile, eh bien, le bon traceur, C'est NO2. Donc, dans notre jargon, on appelle ça NOx parce qu'en fait, il y a une réaction chimique qui convertit en permanence du NO en NO2. Et par facilité, on appelle ça NOx. Mais NO2, c'est un bon, très, très bon traceur de trafic. Et donc, on voit si on surveille le NO2. Alors ça, c'est pas une carte faite par satellite parce que c'est trop compliqué à faire ça, mais c'est une carte faite à partir de mesures routières et de modèles et qui montre en fait les concentrations de NO2. Donc, plus on est dans une ville dense, plus il va y avoir de concentration de NO2. Alors, quand les premiers lockdowns, les premiers confinements liés au Covid se sont passés, bon, après, nous, on était coincés comme tout le monde chez nous, mais ça a été une opportunité incroyable de pouvoir comparer en fait ce qui se passait au-dessus des villes, dans le cas où les gens circulaient beaucoup moins en voiture. Et donc, bien sûr, tout le monde s'est précipité sur les mêmes données. Et ici, c'est un autre satellite que je vous montre. Et donc, plein de gens en même temps ont sorti des cartes qui ressemblaient à ceux-là. Vous avez sur la carte de gauche, en fait, les mesures de NO2 sur la même période de temps, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, hein, les polluants, c'est saisonnier. Et donc, si on veut comparer le NO2 qui est à droite pendant la période de lockdown, donc ici, on a pris 13 mars à 13 avril 2020, si on veut comparer ça à ce que ça donnait avant, il ne faut pas prendre le mois d'avant, il faut prendre l'année d'avant sur la même période, parce que les polluants, c'est vraiment ça aussi en fonction des saisons. Et donc, si on compare en fait les deux mêmes périodes pour les années d'avant, on voit qu'on a des diminutions de pollution qui sont importantes, autour de 50% dans toutes les grandes villes. Hein, il y a Paris, Madrid, Rome, Milan là, qui sont illustrés. Donc, ça nous a donné en fait une occasion en or d'avoir en vrai une expérience qu'on ne pensait pas pouvoir faire, de voir vraiment si on diminue le trafic automobile, de combien ça baisse certains polluants, notamment ici le NO2. Ça, c'est assez facile à faire, en fait. Ça, tout le monde sait faire, en fait. Enfin, tout le monde qui travaille sur les données satellites, c'est facile à faire. Plus compliqué, c'est d'essayer de voir des petites concentrations de NO2 qui sont liées à du trafic plus difficile à détecter. Et ici, ce qu'on a fait, ça, c'est une étude très récente, toujours avec le même instrument, c'est d'essayer de voir si on voit le transport maritime. En l'occurrence, on voit assez bien les routes des bateaux qui sont toujours les mêmes, qui passent toujours sur le même chemin. Mais là où l'étude est intéressante, c'est qu'on a essayé de voir l'impact en fait de certains événements géopolitiques, comment ça va impacter en fait le trafic des bateaux et comment on voit ça depuis l'espace. Je vais vous montrer comment la situation, le conflit israélo-palestinien va avoir un impact sur le trafic des bateaux. Et donc, comme vous avez sans doute lu dans la presse, à partir du mois de novembre, en 2023, l'année passée, il y a des rebelles, les rebelles houthis qui sont associés à l'Iran, qui ont en fait commencé à attaquer toute une série de bateaux qui passaient dans la mer Rouge. Ça veut dire que les bateaux qui ont suivi ont dû changer leur trajectoire. Et donc, c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Donc, par exemple, il y a des industries qui sont arrêtées de fonctionner parce qu'ils n'étaient plus approvisionnés par ces bateaux, par exemple. Je vous mets deux exemples. L'usine Tesla en Allemagne et aussi en Belgique, en fait, l'usine Volvo à Gand, qui a dû arrêter sa production parce que les pièces n'arrivaient plus. Je vais vous montrer, en fait, tout notre travail. Nous, vous avez vu qu'on est une vingtaine dans l'équipe. Dans ces 20 personnes, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, il y a des tas de gens comme ça. Et là, ça paraît facile parce que je vous montre des images, mais vous allez voir que chaque image, en fait, met un temps fou à être générée. Et surtout, si on veut voir des phénomènes très faibles, et là, on va quand même regarder la différence entre des trajets de bateau vus de l'espace sur un satellite qui vole à 800 km d'altitude. Et donc, ça demande, en fait, du traitement d'image assez compliqué. Et ça demande aussi un peu de jouer avec les échelles de couleurs, etc., pour voir ce qu'on veut voir. Donc, c'est une carte de NO2 vue du ciel en moyenne aussi. Et donc, typiquement, vous voyez aussi concentration de NO2 importante en Chine, parce qu'il continue à avoir beaucoup d'industrie et de trafic. L'Inde qui apparaît très nettement, certaines villes en Europe qu'on voit très, très clairement aussi. Le NO2 est aussi émis par les feux, donc vous retrouvez les feux en Afrique dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez les grandes villes américaines, la côte est, la côte ouest. Partout où il y a des points jaunes, c'est soit qu'il y a des grandes villes, soit qu'il y a des grands feux, soit qu'il y a des industries importantes. Afrique du Sud, par exemple, c'est un complexe industriel. Tous les points jaunes correspondent en fait à des endroits qui émettent beaucoup de ce polluant NO2. Alors, si on veut regarder le trafic des bateaux, eh bien, c'est vraiment très faible par rapport à toutes ces signatures-là. Donc, on va commencer par saturer l'échelle de couleurs. On va dire, hop, on sature complètement l'échelle de couleurs pour voir les petites traces, en fait. On voit surtout en fait les grosses traces qui sont devenues difficiles à regarder. Donc c'est les mêmes données, hein, c'est juste j'ai changé mon échelle de couleurs, c'est tout. Je vais masquer les continents parce qu'on s'intéresse aux bateaux et vous allez dire qu'on commence à voir un peu mieux ce qu'on doit regarder. Et donc, ce que vous voyez là, bah, c'est essentiellement du trafic de bateaux qu'on voit. Et vous voyez beaucoup les ports, là, en fait, chaque fois. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est les routes des bateaux et comment c'est affecté. Alors, ce conflit avec les rebelles Hutus, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Ben, c'est que les bateaux, au lieu de passer par la mer Rouge, ils doivent faire maintenant le détour par la pointe de l'Afrique pour aller jusque, par exemple, d'Europe en Asie et le contraire aussi. Et donc, les petits ports qui se trouvent en Afrique, avec des représentés ici avec des points verts, eh bien, sont en fait des nouvelles routes de bateaux qui n'existaient pas avant ou qui étaient en tout cas pas aussi fréquentées. Je vais vous montrer, en faisant basculer l'image de l'un à l'autre, on voit beaucoup mieux. Je compare pour la même période de l'année, donc la période de 2024, beaucoup de passages en 2023, beaucoup moins de passages en 2024 récemment. On peut faire la même chose en fait pour la Méditerranée. Les bateaux ont changé de route puisqu'ils passent par l'Afrique. Et si on compare en fait 2024, voilà, beaucoup moins de passages. Et 2023, on voit ça. Et dernièrement, on va faire le passage en Afrique. Ça, c'est alors, vous allez devoir regarder les lignes qui vont apparaître près de mes traits blancs en fait. Et donc en 2024, voilà. Et 2023, on voit rien. Tandis qu'en 2024, on voit très faiblement. Si vous regardez, on voit très faiblement sur l'image. Tout ça pour dire qu'on est capable de voir tout ça par satellite. Donc ça, c'est des travaux récents qui ont montré ça. Petite pause encore, si quelqu'un a une question maintenant. Oui.
Je vous demandais qui sont vos clients.
Alors moi, je suis chercheuse et en fait, mais oui. Et donc là, la question, c'était de savoir qui étaient nos clients. Alors c'est une bonne question. Donc moi, je suis chercheuse, donc je travaille que pour le gouvernement en fait. Mais avec ce qu'on fait, il y a beaucoup d'applications sociétales. Et donc, typiquement, sur la pollution, on donne ces données aux agences de qualité de l'air. Et donc, par exemple, en Belgique, c'est Irceline qui va faire la prévision de la pollution. Ils les utilisent ou pas comme ils veulent. Eux, ils ont des modèles qui vont intégrer des tas d'observations, des mesures au sol, des mesures faites éventuellement par avion, par ballon, etc. Et des mesures par satellite. Ils prennent ce qu'ils veulent. Donc, moi, ils n'ont jamais de compte à me rendre de savoir si j'utilise nos données. Moi, ce que nous on fait quand on reçoit du financement de l'État pour générer ces données, on les rend publiques. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on analyse, toutes les cartes que vous allez voir, que vous voyez là, elles sont toutes publiques, elles sont toutes sur des sites web. Tout le monde peut télécharger les données, etc., et les analyser. Comme c'est un exposé basé uniquement sur la pollution, je n'ai pas d'illustration de ce qu'on fait qui est avec des applications très concrètes, mais on a quand même un truc qui est très concret. Je vais parler tout de suite là maintenant du SO2. Le SO2 pour la pollution, on le surveille, on passe nos cartes aux agences de qualité de l'air, mais on surveille aussi le SO2 qui est émis par les volcans. Et en général, quand il y a une éruption de volcan, par exemple, eh bien, typiquement, il y a du SO2 qui est émis. Et donc, nous, on donne des alertes à l'aviation. Et donc, ça, c'est l'application sociétale la plus forte qu'on ait, c'est celle-là. On a un système d'alerte automatique et donc moi, je reçois dans mes emails, mais qui veut s'abonner à ce système d'alerte, une alerte quand il y a une éruption volcanique quelque part et pour essayer d'éviter que les avions ne traversent le panache des volcans et n'abîment leurs moteurs parce que les cendres des volcans collent sur les moteurs et peuvent éventuellement faire tomber les avions. Donc vous vous rappelez peut-être de ce volcan islandais, Eyjafjöll, là, qui a... Ben, en fait, c'est après ce truc-là, on s'est dit, oh là là, mais nous, on les voit, les volcans, en fait. Il faut absolument qu'on fasse une application directe dans laquelle les pilotes peuvent s'abonner ou qui veut peut s'abonner pour voir les éruptions volcaniques. Donc, on fait de la science vraiment pure et dure, mais on a quand même un petit peu un biais sociétal parce qu'on fait des choses qui concernent tellement la vie des gens qu'on fait ça. Les volcans, quand ils éruptent, parfois, ils éruptent en un coup et tous les gaz explosent. Et donc là, on voit l'explosion au même moment que tout le monde, on va dire. Mais souvent, ils relâchent des gaz avant. Et donc, en voyant le SO2, parfois, qui est relâché avant, et c'est arrivé en Indonésie, c'est grâce à ça qu'ils ont pu donner l'alerte et vider l'île en question. Et donc, c'est directement lié quand même à sauver des vies des gens. Bon, là, ça s'éloigne un peu de la pollution, mais ça vous donne voilà, un exemple. Mais sinon, c'est vrai que comme scientifique, et c'est un peu une frustration, en fait, on donne plein de données à plein de gens, mais on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Donc, les agences de qualité de l'air en France, par exemple, elles s'appuient beaucoup sur les données locales, beaucoup moins sur les données satellites. Mais bon, ça, voilà, c'est en progrès, on va dire. Alors, pour parler du SO2, justement, c'est un très bon, je vous avais dit, un beaucoup lié à la combustion du charbon. Et donc, ici, on retrouve de nouveau les grands pays émetteurs comme la Chine, par exemple. On voit de nouveau le vent qui va porter la pollution et la faire circuler tout autour du globe. On retrouve les grandes villes où il y a encore des activités industrielles importantes. On voit des points, toujours un peu les mêmes à certains endroits qui sont les, là où il y a des extractions de minerais, etc. Alors, une des villes les plus impressionnantes au niveau de la pollution, c'est celle qui est... alors, si vous regardez la Russie, là, sur l'image, en haut, il y a un point rouge, là. C'est la ville de Norilsk, et c'est une des villes les plus polluées du monde, alors que c'est situé littéralement au milieu de nulle part. J'ai cherché une photo sur Internet, et ça ressemble à quelque chose comme ça, donc c'est très, très, très moche. Et ça, c'est l'extraction, en fait, de minerais. Et donc là, c'est, enfin, vu de l'espace, on passe au-dessus de Norilsk, pouf, chaque fois, je sais exactement où est Norilsk sur la carte, parce que j'ai un point rouge chaque fois, tellement c'est pollué. Hein. Alors juste pour vous, parce que tout ça a l'air un peu déprimant, mais en fait, si vous vous rappelez, pour les plus âgés d'entre vous, si vous vous rappelez dans les années... Je sais pas quand c'était, dans les années 90, je crois, on parlait beaucoup des pluies acides, par exemple, qui décimaient les forêts, notamment en Allemagne et en Europe de l'Est. Et donc, ces pluies acides, c'est lié à des concentrations importantes, justement, de SO2, typiquement. Et comme le SO2 est beaucoup plus, a diminué de manière importante, puisqu'on ne se chauffe plus beaucoup au charbon, enfin, même plus du tout au charbon en Europe de l'Ouest. Et donc, ce problème-là, par exemple, il est résolu. Il n'y a quasi pas de pluie acide. Alors, quand j'ai cherché une image, j'ai quand même trouvé encore des endroits ponctuels où ça se passe. Mais là, par exemple, c'est en République tchèque, mais c'est à côté d'une industrie, en fait, qui traite les minerais. Donc, c'est juste à côté. Donc, à l'échelle de l'Europe, on va dire, ce problème-là a été résolu parce qu'on a limité la combustion de charbon. Ok, mon dernier exemple sur les activités agricoles. Donc ça, c'est ma molécule préférée parce que c'est celle sur laquelle on a eu le plus de nouveaux résultats scientifiques et qu'on s'attendait pas du tout à pouvoir mesurer depuis l'espace. Alors c'est l'ammoniac NH3. Elle est difficile à mesurer parce qu'en fait, il absorbe très, très faiblement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ammoniac dans l'atmosphère. Alors, l'ammoniac, vous dites, ça ne me dit rien, mais ça, vous connaissez tous l'odeur de l'ammoniac. Vous allez faire pipi pendant la nuit et que vous ne tirez pas la chasse pour ne pas réveiller vos enfants ou vos voisins. Eh bien, le matin, c'est de l'odeur de l'ammoniac, en fait. L'ammoniac, c'est un polluant en tant que tel, mais c'est aussi, on va voir, un polluant qui génère beaucoup de particules et on va voir d'où il vient. Alors, je vais faire un petit zoom sur la région en grisé, là, et je vous montre, en fait, ce qu'on observe par satellite. Ce que je voulais vous montrer, c'est les petits pics qu'il y a en rouge, là. On a découvert ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, ce truc qu'on n'avait pas observé avant? Et en fait, on venait de passer avec le satellite au-dessus d'un grand feu. Et on a fait des cartes, on ne savait pas ce que c'était, quelle molécule c'était en fait. On a fait des cartes et on avait la première carte qui est celle-là. Alors, on a tellement l'habitude de regarder la pollution que pour nous, les points rouges, c'est toujours au-dessus des villes. Et la première carte qu'on a obtenue, c'était celle-là, quand on a accumulé toutes les données, qu'il est passé partout, plusieurs jours, etc. Voilà, il y a un gros spot rouge dans la vallée du Pô, il y a des spots rouges en Allemagne, il y a plein de spots aux Pays-Bas, et il y a la vallée du Nil. Et puis en regardant, en fait, parce qu'on a des bases de données pour essayer de voir quelle molécule correspond à quel signal, etc., on s'est dit, ok, c'est de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est directement lié au fertilisant. Et donc, ce que vous voyez là comme hotspot, c'est des régions où il y a beaucoup, soit d'industries qui produisent des fertilisants, soit d'agriculture, et il y a de l'épandage de fertilisants dans les champs, par exemple. Et donc ça, heureusement pour nous, on était les premiers à le faire. Et donc ça, les scientifiques, c'est toujours la course à la publication scientifique. Et donc ça, c'était vraiment un top sujet et qu'on a réussi à bien valoriser avec les publications. Et depuis, on a plusieurs personnes de l'équipe qui travaillent rien que sur ça parce que c'est un des seuls instruments qui mesure l'ammoniac. Alors ça, c'est ma petite explication un peu simple. Donc l'ammoniac, c'est simple. Pourquoi c'est lié à l'agriculture et à l'élevage? Eh bien, parce que c'est lié aux engrais. Quand vous épandez l'engrais dans les champs, la végétation absorbe cet engrais. Et puis après, les animaux, que ce soit le bétail, beaucoup les vaches, les cochons, etc., vont manger le foin et vont, à travers leurs urines et leurs déjections, dégager de l'ammoniac. Et donc, d'où l'odeur de quand vous avez fait pipi, vous ne tirez pas la chasse, c'est l'odeur de l'ammoniac. Le problème, c'est que cet ammoniac, quand il se dépose dans l'atmosphère, va avoir des événements de pollution importants et va aussi dans l'eau générer des problèmes comme les algues et tout ça. En Bretagne, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes dans les eaux. Il y a beaucoup d'ammoniac et donc ça génère beaucoup d'algues, etc. Alors, je ne vous parle pas de l'eau ici, je vous parle de l'air. À Paris, typiquement, les événements de pollution qu'on observe à la fin de l'hiver, donc il y a toute la pollution qui vient du chauffage, du trafic automobile, des feux ouverts, on est à la fin de l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe au début du printemps? Eh bien, les agriculteurs épandent des fertilisants dans leurs champs aux alentours de Paris. Tout ça se transforme en particules après et va conduire à des événements de pollution importants et qui sont très difficiles à prévoir, mais parce qu'on ne sait pas exactement quel jour les agriculteurs vont faire leur épandage en fonction de s'il fait beau, pas beau, etc. Et donc c'est un des polluants qu'on ne parvient pas bien à contrôler encore pour l'instant. L'ammoniac va me servir à vous montrer comment on génère des cartes de qualité avec nos données satellites. Donc le satellite, il passe une fois par jour partout, il fait une mesure partout. S'il y a un nuage en dessous, il ne voit pas. Donc on attend le jour suivant que le nuage ait bougé et je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait des moyennes sur plusieurs jours. Donc l'image que vous avez là, c'est l'image sur un jour. Ici, c'est l'image sur une semaine. Ici, c'est sur un mois. Là, c'est sur un an. Et si on fait la moyenne sur 10 ans, en fait, on a une image quasi parfaite qui suit le Nil et toute l'agriculture qui va autour. Donc chaque petit point que vous voyez là, ça correspond à des épandages d'engrais aux alentours du Nil. Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui travaillent là-dessus parce que c'est un des plus chouettes sujets de recherche qu'on ait. Et donc, il y a un gars qui a passé un an de sa vie, à essayer de voir toutes les sources d'ammoniac dans le monde parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et donc, lui, il a fait des moyennes des données satellites, il a essayé de les exploiter intelligemment. Et donc, il a fait tout un inventaire. Et grâce à ça, on a trouvé plein de nouvelles sources, à peu près 200 nouvelles sources d'ammoniac. Tout ça est bien documenté maintenant. Et donc, ça permet en fait d'essayer de mieux comprendre les événements de pollution qui sont localisés à certains endroits. Et je vais vous montrer deux sources parce que la base de données existe. Je vais vous montrer l'adresse. Et si vous voulez, vous pouvez vous-même zoomer sur chacune des sources et essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous. Partout en dessous, c'est soit des élevages, mais des élevages massifs. Hein, ce n'est pas trois vaches, c'est des centaines de vaches ou des milliers de vaches. Soit des industries qui produisent de l'ammoniac, par exemple. En général, c'est ces deux sources-là. Je vais vous en montrer deux en exemple. Je vais zoomer sur un petit point rouge qui est quelque part dans mon carré aux États-Unis là, et puis je vais zoomer sur un point rouge qui est quelque part en Asie. On y va. Donc ici, je vais vous montrer un élevage de vaches intensif. Et donc le petit point rouge que vous voyez au milieu de l'image, on va essayer de zoomer dessus, c'est Google Earth. Ça, on cale nos cartes satellites sur du Google Earth et on zoome. On change un peu la transparence et tout ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc on zoome. Là, on commence à voir apparaître les champs, les carrés que vous voyez là, c'est des champs, etc. On zoome encore. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des centaines et des centaines de vaches. Là, chaque petit point blanc ou noir, c'est une vache, en fait. Et donc, on a fait ça partout autour de la Terre. Je vous en montre un autre. Ici, un complexe industriel. Je vais zoomer sur un des points rouges au milieu de la carte. Là, on est en Ouzbékistan, la vallée de Fergana. On va zoomer ici. Là, on ne voit toujours rien, mais je vais changer la transparence. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme complexe industriel qui produit de l'engrais. On a fait ça sur 400 endroits de la Terre. On a découvert 200 nouvelles sources qui n'étaient pas documentées et qu'on connaît maintenant. Et alors, il y a un seul endroit où on ne trouvait pas d'explication, c'est-à-dire on Google Earth et on ne voit rien en dessous, en fait. Et donc, on a cherché pendant longtemps, on a fini par trouver l'explication. Et donc, je vais vous le montrer. C'est ici, au large de la Tanzanie, en fait. Et l'explication, donc là, on a le jaune, là, c'est de l'ammoniac, mais de manière moins importante que ce qu'on a au-dessus des industries ou au-dessus des milliers de vaches, là, mais quand même. Et on a fini par trouver que c'était des flamants roses qui revenaient chaque année, et avec leur déjection, en fait, c'est ça qu'on voit de l'espace. C'est dingue, ça, moi, je trouve ça dingue. Et cet inventaire est disponible, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à ce stade? Oui.
Le spectre que vous voyez est quand même assez complexe. Et donc, est-ce qu'il y aurait encore d'autres molécules que vous n'auriez pas détectées?
C'est bien parce que vous faites la transition sur l'exposé suivant. Oui, mais je serais très surprise qu'il y ait un gros truc qu'on n'ait pas détecté. Parce que là, on est vraiment déjà l'ammoniac, on cherche un peu dans le bruit de fond. Et si je prends une observation, on ne voit pas grand-chose. Il faut accumuler les observations sur plusieurs jours. Donc, je vais dire les gaz qui sont présents en concentration importante, le méthane, l'ozone, tout ça, on a tout. Les petits gaz qui sont présents avec je penserais par exemple à une explosion industrielle quelque part, avec un gaz auquel on n'aurait pas pensé, c'est possible qu'on n'ait pas encore vu. Mais je crois qu'on a quand même, on est tellement nombreux et on fouille tous pour trouver des trucs que les autres n'ont pas trouvé, que je serais quand même assez surprise qu'il y ait un gros truc qu'on ait loupé. Mais je vais vous montrer juste la dernière, mon petit mystère résolu. C'est quand même quelque chose qui ressemble à ce que votre question. Ouais, allez-y.
Juste au niveau du spectre lui-même, on est dans l'infrarouge. Est-ce que est-ce qu'on a des indications de, par exemple, des effets de la température suivant la hauteur?
Oui, mais bonne question aussi, parce qu'en fait, le spectre que j'ai dessiné, il y avait des chiffres à côté, c'était 300, et ça, c'est la température en Kelvin. Donc, c'est exactement ça qu'on voit. La ligne, en fait, ce qu'on appelle la ligne de base à partir de ce spectre, c'est la température. Mon exposé n'est pas sur ça, mais j'ai une autre conférence qui est sur la température. Est-ce qu'on mesure très, très bien la température avec cet instrument, en fait? Mais donc, c'est une bonne question aussi, parce que toutes nos mesures dépendent de la température. Plus il fait chaud, plus on voit bien. Donc, au pôle, on voit moins bien qu'à l'équateur, en fait. Mais c'est une autre question aussi. Oui. Alors, j'en reviens à mon petit mystère. Donc, comme je vous disais, je termine chaque fois, enfin, je vois une conférence grand public en disant, tiens, si vous avez une idée, dites-moi. Mais on a fini par résoudre. Donc là, en avant-première, petit mystère longtemps non résolu. Alors, comme je disais, il y a des molécules bizarres. Et dans les molécules bizarres, par exemple, il y a l'éthylène, C2H4. Lui, on le voit parfois au-dessus des grosses industries et on le voit dans les feux aussi. Alors ici, j'ai remis mon image des feux en Australie. Là, on voyait pas mal d'éthylène. Alors, ce qu'on fait parfois aussi, comme maintenant, on a les données satellites depuis le premier satellite lancé en 2006, donc on a 17 ans de données. On essaie de faire des séries temporelles. Donc, on a dessiné ici de 2013 à 2023. Et on essaie de voir pour une molécule donnée les pics n'importe où autour du globe. Ici, on a par exemple plein de pics liés à cette molécule C2H4, l'éthylène. Chaque fois, on essaie d'associer pourquoi il y a un pic. Et donc là, c'est assez facile. En fait, les gros pics, c'est les feux. Je vous ai dit, les feux, c'est un cocktail de toutes les molécules que vous pouvez imaginer. Donc il y a plein de... En fait, je ne suis pas chimiste, donc je suis très, très mauvaise sur les formules chimiques des trucs, mais il y a du C3H6, C2H2, enfin, plein de molécules qui ressemblent à ça. Quand je vous dis plein, c'est genre une quarantaine, quoi. Et donc celui-là, C2H4, il y a quelqu'un qui était en thèse, qui s'est amusé à l'analyser. Et il y a quelques pics où il a trouvé aucune explication. Donc, OK, on a des pics, mais il n'y a pas d'explication. Alors, il regarde où ils sont, parce que nous, en fait, on accumule toutes les données. Et chaque fois, on dit, ah oui, c'est un feu au Canada, c'est un feu en Indonésie, etc. Il regarde où ils sont, et c'est chaque fois près de la frontière Iran-Irak. Et donc là, deux exemples, en fait, du passage du satellite. Les petits points rouges, c'est là où on voit des concentrations d'ammoniac élevées. Alors ça, c'est pour deux des dates. On a ça quelques jours comme ça. Si ça avait été toujours au même endroit, on aurait dit, OK, il y a une industrie là qui émet l'éthylène, c'est 2H4. Mais l'endroit change, en fait. C'est ça qui est perturbant. Et donc, c'est plutôt en Iran. Et l'endroit change chaque fois. Et donc, on a, voilà, ça, les autres fois, ça se terminait là, mon esprit de question. Chaque fois, je disais, si vous avez une idée, si vous connaissez quelqu'un qui est en Iran, vous pouvez lui demander ce que c'est. Bon, depuis, on a un petit peu avancé cet été, à force de chaque fois dire ça, et les gens me disaient, ouais, c'est peut-être des armes, etc. Et donc, voilà, comme on est des chercheurs, on cherche. Entre-temps, il y a quand même un gars qui a fait un papier, qui a référencé, qui a fait un peu comme ce qu'on a fait sur l'ammoniac, qui c'est un peu plus compliqué à faire, mais qui a fait un répertoire de tout ce qu'on voit comme source d'éthylène, mais les sources qui bougent pas, en fait. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de sources au Moyen-Orient, et notamment des gros complexes industriels, et il y en a beaucoup, beaucoup en Iran. Alors cet été, bon, ça date d'il y a quelques semaines, et donc là, il s'est penché plus sur la question, parce qu'il s'est dit, allez, je ne vais pas laisser ça non solutionné. Et donc, on a vraiment regardé ce qui se passait en Iran. On a regardé où étaient ces grands centres pétrochimiques et on a remarqué que ces concentrations élevées de cette molécule C2H4 se retrouvaient souvent pas très loin des centres chimiques. Donc, on s'est dit au début, c'est le vent ou des choses comme ça, mais on trouvait pas, on regardait par où va le vent et c'était jamais dans la bonne direction. Enfin, on comprenait pas le truc. Et il a fini par trouver qu'il y a cet énorme pipeline, en fait, qui transporte de l'éthylène pur, donc il n'y a que ça dans le tuyau, et qui dessert en fait tous ces complexes pétrochimiques en Iran. Et donc ça, c'est le trajet du pipeline. Donc on a trouvé les coordonnées du trajet, on l'a mis sur nos cartes. Et en fait, ça colle extrêmement bien. C'est-à-dire, vous avez ce pipeline qui est représenté là en vert, et vous avez nos observations par satellite. Et donc ça colle, en fait, le échelle de couleur, c'est plus c'est intense, plus c'est jaune là. Et vous voyez qu'on voit chaque fois, c'est sur le trajet du pipeline, on voit vraiment le cœur de l'émission. Et puis, ça s'en va avec les vents au passage suivant. Je crois qu'il y a même deux passages en suivant. Oui, celui-là, c'est deux passages en suivant du satellite. Donc, on le voit d'abord en jaune et puis on le revoit après en mauve quand il a été porté par les vents. Et donc, après, il y a quand même encore des petits mystères parce qu'on sait, en fait, ça veut dire qu'il y a des fuites sur ce pipeline. Mais quand je vous dis que c'est des fuites, je pense que vous ne voyez pas l'ampleur de la fuite, en fait, pour qu'on le voit de l'espace. Mais c'est un truc de malade. Hein. Ça veut dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de gaz qui sont émis. Et donc après, j'ai été un peu fouillée. On n'a pas tout à fait terminé les explications parce que j'étais un peu fouillée sur Internet. Malheureusement, bon, y a sûrement plein d'infos, mais pas beaucoup d'infos en anglais. Et donc, par chance, j'ai un beau-fils qui est iranien. Donc, je lui ai un peu demandé d'aller fouiller aussi, lui, en Perse, dans les trucs, etc. Il m'a trouvé quelques machins. Mais donc, ça correspond à soit des attaques sur ce pipeline, soit des incendies, soit des inondations. Mais pour l'instant, il y a encore une partie du mystère, c'est que les dates, donc nous, nos dates, c'est les trucs en rouge que je vous ai montré au départ, là, je ne trouve pas de correspondance. Mais par contre, on est complètement sûr que c'est ça, ça colle trop, enfin, sur le parcours du pipeline, ça colle. Mais donc, ça veut dire que c'est quand même incroyable. Ça veut dire que nous, depuis l'espace, on peut surveiller un pipeline qui est en Iran, auquel je me doute qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont accès et sur lequel je me doute que les informations sont assez protégées. Mais voilà, ça c'était le chouette petit mystère qu'on vient de résoudre. Alors juste en conclusion, bien, j'espère que je vous ai montré plein de choses. Donc la pollution, ça reste un problème de santé majeur parce que c'est un peu comme la cigarette, hein, c'est un peu de pollution, c'est déjà un problème. Beaucoup de pollution, c'est un vrai problème. Par contre, on connaît de mieux en mieux l'impact sur la santé et on connaît de mieux en mieux les sources de ces polluants. Et donc en Belgique, ça diminue, les particules, ça diminue clairement. L'ozone, l'ammoniac, c'est un peu plus préoccupant. Donc par exemple, aux Pays-Bas, l'ammoniac, c'est un vrai gros problème et ça pose beaucoup de problèmes aux agriculteurs parce qu'ils mettent des normes pour qu'ils restent en dessous, etc. Il y a des pratiques agricoles qui font que l'ammoniac ne se disperse pas autant dans l'atmosphère, mais ça a un coût, bien sûr. Alors on dispose maintenant de beaucoup de mesures, en tout cas dans nos pays industrialisés, des mesures au sol, le réseau en Belgique par exemple pourrait être mieux, mais il est déjà assez bien. Par contre dans d'autres pays, c'est absolument pas le cas. Et donc c'est voilà l'exemple de l'Iran par exemple, ici, je pense qu'ils connaissent pas eux-mêmes les fuites dans leurs tuyaux. La pollution elle est surtout locale, mais elle peut voyager un peu, je vous ai montré avec l'exemple des fumées. Et alors juste pour terminer, j'ai encore deux slides. C'est juste pour vous montrer la différence avec les gaz à effet de serre et pour vous donner des ordres de grandeur. Donc la vitesse que prend un gaz pour tourner autour de la Terre, ben vous l'avez vu avec les fumées, quand c'est un trajet d'est en ouest, bien ça c'est exactement à peu près 2 à 4 semaines, donc ça va assez vite. Ça reste dans son hémisphère, c'est à peu près en un mois, si un gaz reste un mois dans l'atmosphère, il va se retrouver dispersé partout dans son hémisphère. Par contre, pour passer la barrière de l'équateur, c'est à peu près 1 an. Et donc, la différence entre les polluants et les gaz à effet de serre, c'est vraiment ça. Les polluants, ils restent pas longtemps, ils ont un impact direct sur la santé. Les gaz à effet de serre, comme le CO2, le méthane, le N2O, par exemple, les trois principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines, ceux-là vont rester plusieurs dizaines d'années dans l'atmosphère et donc vont passer la barrière de l'équateur et tout va se retrouver mélangé. Et donc, ils ont vraiment un impact sur tout le globe. Ce n'est pas un impact local, c'est vraiment un impact global. Et donc, vous me demandez sur la température. C'est un instrument qui mesure bien la température aussi. Et donc ici, une carte de température et des variations qu'on observe depuis le lancement du satellite. Et donc, on voit, ce que tout le monde sait ici, que la température en moyenne augmente. Ici, on a forcé un peu l'échelle de couleur pour mettre en lumière les endroits où la température augmente pas ou moins. Et donc, c'est encore un grand sujet de recherche parce qu'on ne comprend pas les explications partout. On comprend bien, par exemple, au sud du Groenland, pourquoi à cet endroit-là, la température n'augmente pas aussi vite qu'ailleurs, elle diminue même. C'est parce que la glace fond, en fait, et va alimenter en fait, de l'eau plus froide au sud du Groenland. Et aussi parce qu'il y a des déplacements de courants marins qui font que ce courant marin qui fait demi-tour à cet endroit-là fait demi-tour un peu plus bas maintenant à cause des perturbations induites par les activités humaines. Mais un exemple, je l'ai mis ici parce que je trouvais ça intéressant de comparer la Chine et l'Inde. Je vous ai dit que la Chine faisait pas mal de progrès au niveau de la qualité de son air. Et une conséquence de cela, c'est qu'en fait, leur température progresse plus vite qu'en Inde. Pourquoi ? Parce que la présence de particules dans l'atmosphère va faire une sorte d'écran à la radiation solaire qui va atteindre la Terre. Et donc, les endroits qui sont très, très pollués, paradoxalement, se réchauffent moins vite. Et donc, c'est un truc un peu perturbant intellectuellement, parce que ça veut dire que si on arrange le problème de la pollution, eh bien, la température va continuer à augmenter un peu plus vite. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que les sources de polluants et les sources de gaz à effet de serre, tout ça, c'est de la combustion de fuel fossile. Donc, si on se débarrasse des fuels fossiles, on résout les deux problèmes en un coup. Donc, c'est ça qui est rassurant. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Si vous aimez bien la vulgarisation scientifique, il y a un super média. Je le dis souvent, c'est à la fin des conférences. Je travaille de temps en temps pour eux, mais on n'est pas payé ni rien. On fait ça sur base volontaire, qui s'appelle The Conversation. Donc ça, c'est un des articles que j'ai co-écrit cet été avec mes petites collègues. Et moi, je le lis tous les jours, mais c'est pas que de la science, en fait. C'est plein de trucs. Je vous ai mis un autre comme exemple. Par exemple, ça, c'est un que j'ai lu hier. Et donc, vous pouvez vous abonner et tous les jours, on reçoit les titres. Et moi, je trouve ça une source géniale parce qu'en fait, c'est écrit par des chercheurs et corrigé par des journalistes pour que ce soit en langage vulgarisé. Et donc, par exemple, moi, si je lis un truc comme cela, psychologie, je vais comprendre parce que c'est tout vulgarisé. Et donc, c'est vraiment, je trouve, le meilleur média qui est pour le moment. Et voilà. Et vous pouvez poser vos questions si vous en avez encore.
Merci. Justement, à propos du SO2, vous n'avez pas parlé du changement du carburant de bateau qui a induit une très très forte baisse du SO2, qui est peut-être une des raisons pour lesquelles la température est en train de monter très fort soudainement, mais je pense que vous avez dû voir ça.
Oui, alors oui, je vois que vous y connaissez parce qu'effectivement, c'est une des raisons. Donc, le fait que la température était plus élevée ces derniers temps, c'est une des causes, mais ce n'est pas la principale. La principale, c'est lié à ce phénomène naturel El Niño. Mais il y a une combinaison de causes qui sont allées dans le même sens. Il y a El Niño. C'est un pic d'activité solaire pour l'instant, donc ça fait aussi augmenter de 1 ou 2 dixièmes de degré. Et il y a effectivement la baisse de pollution, notamment sur le trafic maritime. Donc oui, ça fait partie des explications pour expliquer pourquoi la température s'est un peu emballée ces derniers mois. Mais c'est quand même assez mineur, mais disons que c'est des tas d'explications qui s'accumulent et qui se rajoutent ensemble. Ça va baisser là parce qu'on rentre dans un événement, la Nina, qui est l'inverse. Et c'est ça qui drive le plus, en fait. C'est ces grands courants marins.
Oui, vous avez parlé des fertilisants, notamment en Belgique et en Hollande. Mais s'ils ne mettent plus de fertilisants, l'agriculture diminue. Oui, c'est un peu un challenge. Que faire ?
Alors, oui, parce que donc c'est les fertilisants, donc il y a ce procédé qui s'appelle Haber-Bosch qui a permis en fait vraiment de nourrir beaucoup plus de gens qu'avant. Donc je pense que c'est une bonne avancée. Il y a une manière d'épandre les fertilisants qui fait qu'ils s'échappent moins dans l'atmosphère. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'inciter les agriculteurs à faire. Donc en Hollande, c'est devenu très restrictif. Il y a eu une alerte ici en Flandre parce que les taux étaient vraiment dépassaient toutes les normes européennes. Mais en fait, ce n'est pas de plus utiliser de fertilisants, c'est d'utiliser fertilisants autrement et en moins grande quantité. Et c'est aussi beaucoup sur l'élevage de bétail aussi. Ce qu'on donne à manger aux animaux va induire plus ou moins d'émissions d'ammoniac aussi. Donc, par exemple, Danone, pour ne pas les citer, on donne des aliments adaptés à leurs vaches pour que le lait ait une autre composition et pour qu'il y ait moins d'émissions d'ammoniac. Donc Danone, par exemple, nous a consulté pour dire est-ce que vous pouvez donner des conseils. Mais ça, c'est pas mon boulot, mais voilà, ça vous montre qu'en fait, ça, voilà.
Mais en Flandre, il y a beaucoup d'élevage de porcs, mais ils essayent d'en avoir de plus en plus, donc ils vont avoir trop de fertilisants à répandre.
Alors, probablement, là, c'est trop pointu pour que je réponde intelligemment à votre question. Là, je ne peux pas connaître tout et je ne connais pas bien les spécificités des élevages de porcs, etc. Mais je pense qu'à un moment, tous les éleveurs vont être surveillés par rapport à leurs émissions sur leur bétail, quoi.
Merci, bonjour. J'ai une question technique et alors un exemple pour peut-être l'illustrer. Comment vous faites pour, et si c'est possible, avoir des notions de quantité, parce qu'on a essentiellement vu des concentrations et comment vous passez en quantité. Et pour l'illustrer, est-ce que vous avez vu des images, vu du ciel évidemment, vu de l'espace, du sabotage de Nord Stream? Est-ce qu'on peut, par exemple, en interpréter une certaine quantité relâchée de méthane?
Oui. Alors, les concentrations, ce sont des quantités, en fait. Donc, pour nous, la difficulté, c'est de retourner aux émissions. Les émissions, c'est ce qu'il y a au sol. Les concentrations, c'est ce qu'on retrouve dans l'air. Donc, le problème de nos données, c'est que nous, on voit les concentrations, on voit tout ce qui est dans l'air. Et je vous dis pourquoi c'est pas facile. C'est, par exemple, l'ozone, dont j'ai assez peu parlé. Il y a la couche d'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet et il y a l'ozone qui est émis en bas par les voitures. Et donc, typiquement, ce qu'on dit, c'est le bon ozone, c'est celui qui est en haut, entre 20 et 30 km d'altitude. Le mauvais ozone, c'est celui qui est produit en bas parce que c'est un gaz irritant pour les poumons. Nous, par satellite, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux. Donc, on voit du satellite, 800 km, on voit l'ozone d'en haut et l'ozone d'en bas. Et donc ça, par exemple, c'est très difficile à faire pour nous parce qu'on veut essayer de quantifier l'ozone en bas. On a l'ozone en haut qui nous... Et donc tout est vu comme en colonne d'air, c'est-à-dire on voit ça. Donc ce qui est difficile à faire, mais ça c'est quand même des quantités, c'est-à-dire dans ma colonne d'air, j'ai autant d'ozone, autant de SO2, autant de méthane par exemple. Ce qui est difficile à faire, c'est de dire quelle industrie a émis quelle quantité, parce que le voisin, s'il n'est pas loin, le vent va mélanger mon industrie A de mon industrie B. Et donc, s'ils ne sont pas assez séparés, vu de mon satellite, pour moi, c'est un gros spot de polluants. Et je ne vais pas pouvoir dire qu'est-ce qui vient de telle industrie ou telle ville ou de la ville voisine, en fait, si c'est trop rapproché. Et pour revenir à Nord Stream, eh bien là, on l'a vu, mais on voit un point. Donc, on peut dire, OK, les concentrations de méthane telles qu'on les voit, c'est ça. Par exemple, moi, je ne pouvais pas deviner que ça venait d'un Nord Stream parce qu'il a déjà été poussé par les... Enfin, nous, on voit vraiment la colonne telle qu'elle est poussée par les vents. Donc, effectivement, on l'a vu à quelques dizaines de kilomètres de là où les vents l'avaient porté un peu plus loin. Donc, on avait vraiment vu un tout petit point. Pour moi, c'est challenging de voir un petit truc comme ça, quoi, en fait. Mais par contre, il y a des stations locales qui ont vu. Donc, ils ont vite... une fois qu'on le voit avec trois stations locales, qu'on sait d'où viennent les vents, on fait aller les vents en arrière dans le modèle et on dit, OK, là, il y a une fuite de méthane à cet endroit-là. Les fuites que je vous ai montrées d'Iran, c'est incomparablement plus élevé que ça. Hein. Donc, c'est des fuites de malades. Hein. C'est vraiment des trucs... Enfin, là, c'est, vous voyez, ça fait des nuages sur mes cartes, alors que le Nord Stream, c'est un petit point quelque part sur ma carte, quoi.
J'ai deux questions. La première, c'est qu'à la fin de votre exposé, hein, vous avez mentionné que ces polluants augmentaient leur température. Et puis, ce que vous avez dit ensuite, c'était très rapide et je n'ai pas saisi. Est-ce que vous vous en souvenez encore?
Je ne sais pas. Oui, je me souviens. Donc, vous voulez dire comment je compare l'Inde et la Chine, par exemple, c'est ça que vous voulez dire ou c'était quoi?
Oui, je n'ai pas saisi.
Ce que j'ai dit, oui, OK, je vais expliquer mieux. Le problème du réchauffement climatique, en général, c'est la température qui s'élève parce qu'on met des gaz qui absorbent la radiation infrarouge et donc qui retiennent en fait la chaleur plus près de la Terre que ce qu'on avait avant. Donc, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est heureusement qu'il y en a dans l'atmosphère parce que sans eux, on ne serait pas là pour en parler. Il ferait moins 18 degrés à la surface. Heureusement qu'il y a du SO2, heureusement qu'il y a du méthane dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'on en rajoute artificiellement en brûlant les combustibles fossiles. Donc la Terre se réchauffe globalement. Il y a des endroits, il y a des endroits qui ne se réchauffent pas aussi vite. Et donc nous, les scientifiques, on essaie de comprendre pourquoi certains endroits ne se réchauffent pas aussi vite que d'autres. Donc les endroits qui se réchauffent le plus vite, c'est la Sibérie, par exemple, le pourtour de la Méditerranée. On essaie de comprendre pourquoi ces endroits-là se réchauffent très vite. Ce qui nous a intéressé, que j'ai essayé de montrer là et que j'ai parlé effectivement très vite, c'est les endroits qui se réchauffent moins vite. Et on voit par exemple que l'Inde se réchauffe moins vite que la Chine. Et quand on analyse pourquoi, eh bien la pollution en Inde, pour l'instant, est supérieure. En fait, il y a plus de particules dans l'air que la pollution en Chine. Et donc, ces particules, qu'est-ce qu'elles font? Quand il y a le rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre, elles font une espèce d'écran. Et donc, il y a moins de rayonnement solaire qui vient à la surface de la Terre. Et donc, ça réchauffe moins vite. Et donc, c'est... Voilà. Et c'est, la pollution, en fait, quelque part, limite le réchauffement à certains endroits sur la Terre.
Merci.
Volontiers.
Ma seconde question, c'est que ce que vous faites, c'est d'analyser, détecter ce qui se trouve dans l'atmosphère, hein, donc des particules, de l'éthylène, CO2, CO, etc. Et une question qui m'est venue à l'esprit, c'est que est-ce que vous étudiez aussi ce qui se passe à une molécule d'éthylène, par exemple, quand elle reste dans l'atmosphère pendant un mois, un an, deux ans? Quelle est l'histoire d'une molécule d'éthylène ou d'une molécule de CO ou de CO2?
Bonne question. Il faudrait que vous veniez assister à mon cours. C'est le premier cours, ça. On dit, voilà. Premier cours, c'est on a toutes ces molécules et en fait, elles ont ce qu'on appelle un temps de vie, c'est-à-dire combien de temps elles restent dans l'atmosphère. Et donc, j'ai donné un exemple. Les temps de vie des gaz à effet de serre, c'est très, très long. Donc, le CO2, par exemple, c'est 100 ans à peu près. Le méthane, c'est à peu près 10 ans. Donc, eux, ils ont le temps de faire le tour de la Terre plein de fois. Il y a d'autres molécules, le monoxyde de carbone, donc CO, lui va rester quelques semaines. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il devient? Au bout de quelques semaines, il va soit réagir chimiquement avec d'autres gaz ou être déposé au sol. Donc, leur temps de vie, chaque gaz a un temps de vie qui lui est propre et qui va dépendre en fait de s'ils ont tendance à réagir avec d'autres molécules. Je vais vous donner un autre exemple. Ben, l'éthylène, par exemple, il reste pas très longtemps parce qu'au bout de quelques jours, il va réagir avec d'autres choses dans l'atmosphère. Il va avoir des réactions chimiques, éthylène plus machin donne un autre truc. Ou bien il va se déposer au sol. Il y a des gaz qui sont solubles dans l'eau. Donc l'ammoniac, par exemple, il est soluble dans l'eau. Donc s'il pleut, pouf, tout l'ammoniac se retrouve dans le sol. Plus d'ammoniac dans l'atmosphère. Et donc chaque gaz, en fait, a sa propre vie et peut rester plus ou moins longtemps dans l'atmosphère. Donc nous, on a des illustrations. C'est pour ça que je vous dis, premier cours, c'est ça qu'on montre. On fait la liste des gaz et on dit, ben voilà, celui-là, il reste 100 ans, celui-là, il reste 10 ans, celui-là, il reste 5 ans, celui-là, il reste 2 mois, celui-là, il reste 3 secondes. Et en fonction de ça, ben, il a le temps de voyager ou pas. Et donc, c'est pour ça que je vous ai montré la carte avec les flèches, en disant, ben voilà, ceux qui restent plusieurs semaines, ils ont le temps de rester et de faire le tour de la Terre. Ceux qui restent quelques heures, ben, ils restent au-dessus de la ville. Ceux qui restent quelques minutes ou quelques secondes, ben, ceux-là, ils restent juste au-dessus d'où ils sont émis, puis ils sont détruits chimiquement. Et donc, plus ils restent longtemps, plus il y a des concentrations importantes dans l'atmosphère, parce qu'ils s'accumulent, en fait, ils restent longtemps. Et plus ils restent pas longtemps, ben, plus c'est des gaz qu'on appelle vraiment réactifs. Tout de suite, ils réagissent chimiquement avec d'autres, en fait.
Oui, ça m'avait une idée qui est peut-être idiote, mais qu'est-ce que nous, les humains, on peut faire pour réduire, éliminer ces particules qui sont déjà arrivées dans l'atmosphère.
Enfin, c'est pas grave, elles vont être les particules, ça reste.
Particules, oui.
Mais ça reste pas si longtemps en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la troposphère, donc c'est les parties les plus basses de l'atmosphère dans lesquelles on vit, les gaz sont mélangés tout le temps. En fait, là, c'est un milieu très turbulent, et donc au bout d'un moment, le vent, la pluie, tout ça, vos particules vont se retrouver détruites dans les sols, les rivières, tout ça va s'autogérer, nettoyer, etc. Et ce qu'il faut faire, la seule chose, c'est plus brûler des fuels fossiles. C'est juste ça qui induit la pollution en particules, en fait. Charbon, pétrole, gaz. Voilà, la recette, elle est là. Arrêtez de brûler des combustibles fossiles. C'est vrai pour la pollution, c'est vrai pour le climat.
Enfin, merci, madame.
Volontiers.
Oui, je voulais savoir s'il y avait des initiatives type Open Data qui consolidaient vos données avec d'autres mesures.
Oui.
Mesures plus locales, et est-ce que ça a du sens de faire ça, de créer des bases de données avec beaucoup de données pour des propos, oui. des intentions de surveillance ou de prédiction?
Alors on est pas mal contacté en fait par des initiatives genre chercheurs d'air et tous ces trucs là qui proposent de mettre des petits tubes chez différents particuliers pour surveiller en fait les. Alors je dirais qu'il y a, ma réponse va pas être la même que celle que j'aurais fait il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ou 10 ans ces mesures, c'était pour la poubelle, quoi, vraiment. Mais ça s'améliore assez vite. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de miniaturiser les systèmes et d'avoir. Je dirais que sur les particules, ça ne marche pas trop mal. Et ce qu'ils ont fait, par exemple, à Paris, ils ont équipé les étudiants, les scolaires, quoi, dans leur sac à dos d'un petit capteur et pour voir partout sur leur trajet entre la maison et l'école, par exemple, qu'est-ce qu'ils respiraient comme polluants. Et je dirais qu'il y a 5 ans, j'aurais rigolé, mais maintenant, je trouve que ça commence à être pas mal. Et ça complète assez bien, en fait. Parce que nous, ce que je vous disais, c'est le problème, c'est qu'on voit partout et très globalement, mais très peu localement ce qui se passe. Et je dirais que ça complète le système. Mais ça ne suffit pas parce que souvent, pour expliquer un pic de pollution, on a absolument besoin de savoir d'où vient. Enfin, comment dire, si on voit la pollution localement, ce n'est pas toujours émis localement, c'est souvent le vent qui transporte, en fait. Et donc, il faut absolument comprendre l'image globale, mais ça complète. Donc, je dirais, pour avoir une bonne image, il faut à la fois des mesures. Au sol, il y en a, mais les stations d'observation coûtent assez cher et sont. Donc, par exemple, autour de Bruxelles, je pense qu'il y en a 7 de Hirseline qui fonctionnent assez bien, etc. Donc, vous pouvez aller voir les cartes de qualité de l'air. Je pense qu'au niveau des rues, etc., des petits dispositifs comme ça, ça peut compléter. Mais ça ne suffit pas, en fait. Mais c'est un complément. Et tout ça, que ce soit bah, les données par satellite, c'est tout ça en open data. Et ces réseaux de surveillance, c'est aussi en open data. Je pense que Hirseline, toutes leurs données sont disponibles aussi. Donc, chacun peut aller voir les cartes de polluants en fonction de.
Et ma question, c'était aussi de savoir s'il y a des organisations qui font ce travail d'agrégation. Est-ce que ça doit être des institutionnels ou des.
Il y a. En fait, nous, on est assez souvent contactés. Le problème, c'est que c'est très concret. Et moi, je ne vois pas toujours la plus-value. Donc, je suis incapable de dire si un petit capteur est performant ou pas par rapport à un autre petit capteur. Voilà, il faudrait plutôt poser ce genre de questions à Hirseline, de savoir qu'est-ce que ça leur apporterait d'avoir des stations en plus. J'ai l'impression que quand, je sais pas moi, s'ils ont un trou dans leurs données, ils vont aller installer une station ailleurs. Moi, je trouve qu'on est assez bien équipés dans nos pays, Mais quand je vois ce qui se passe dans les autres pays, ils sont incapables de dire... Enfin, je veux dire, on a en correspondance avec des collègues indiens ou pakistanais, ils n'ont rien. Enfin, hein, ils n'ont vraiment rien comme station d'observation, quoi. Et donc, je pense que là, en fait, c'est un peu comme la météo. Il y a les stations météo, on en a... Les stations locales météo, on en a beaucoup plus. Donc, il faudrait équiper ces stations météo en plus de capteurs de pollution dans ces pays-là. Nous, je trouve qu'on est relativement bien équipés. Donc, je ne dirais pas, je ne pourrais pas dire facilement comme ça, ah oui, si on mettait une série de petits capteurs qui mesurent les particules, qu'est-ce qu'on aurait en plus ? Enfin, je n'ai pas l'impression que ça manque vraiment. Je trouve que ces initiatives-là sont plutôt utiles pour expliquer aux gens, pour qu'ils se sentent concernés, pour que, voilà, des choses comme ça, parce qu'ils visualisent, en fait, hein, ils peuvent après voir le capteur, comment ça a évolué. Moi, j'avais été contactée, dans le cadre de mon Ishfina, d'une boîte comme ça, qui essaie de montrer qu'il faut mettre un maximum de capteurs pour savoir dans toutes les rues ce qui se passe. Mais en fait, ils ne se rendaient même pas compte que les polluants, il y a un cycle saisonnier, par exemple, donc ils ont installé les capteurs quand c'était hors saison, mais c'est normal que ça montre rien, c'est hors saison, mais enfin, voilà, il y a quand même un truc, une réflexion scientifique à avoir derrière par rapport à ça. Mais voilà, je pense que c'est des petits outils peut-être plus accessibles que tout le monde ne va pas aller se mettre à analyser des données satellites. Hein, donc, c'est complémentaire, je dirais. Mais c'est plus pour de l'éveil scientifique des gens qui contribuent à ces capteurs-là que vraiment pour faire de la science, je dirais.
J'espère que j'ai bien écouté et compris, mais voilà, il me semble que vous avez dit que moins c'était pollué, plus ça se réchauffe.
Oui.
Et alors ?
Vous avez bien compris. et alors, il faut arrêter de brûler les fuels fossiles. La source est la même. Donc,
la source est la même, la même si elle vient d'ailleurs, quoi. C'est ça.
Dans tous les cas, oui.
C'est,
oui.
En fait, c'est parce qu'on est un seul monde.
C'est ça. Bien, c'est le monde, oui.
Donc, c'est de la pollution.
Ah. Oui. Oui, et c'est ça. Donc, par exemple, le problème en Inde, ben, c'est lié à la pollution locale, mais le problème du réchauffement atmosphérique, il est global. Mais eux, ils ont un problème de pollution locale en plus. Donc, il faut vraiment voir ça comme un système global où tout se mélange, sauf que les gaz polluants, comme j'expliquais avec le temps de vie, restent un peu moins longtemps dans l'atmosphère. Donc, la pollution, c'est beaucoup plus local que le problème du réchauffement climatique qui est global. Oui.
Et le réchauffement climatique vient...
J'ai une autre conférence qui est sur le réchauffement climatique, donc je ne vais pas commencer à la faire maintenant parce que j'ai tous envie de manger.
Juste une petite...
Oui, allez-y, vous pouvez venir me parler après, sinon...
Non.
D'où il vient ? Ben, la combustion des fuels fossiles. Il vient en fait, CO2, méthane, c'est ça les gaz, en fait. Donc ça, c'est brûlage du charbon, du gaz pétrole.
D'accord.
C'est la même source, en fait.
OK, merci. Oui. Merci beaucoup.
On va arrêter là, je pense que tout le monde a faim, là. En fait. Merci à tous.
Vous étiez au Verpop de Namur le 23 août 2024 et c'était Cathy Clairbeau, professeure en sciences de l'atmosphère et du climat de l'ULB, qui vous proposait un long exposé sur la pollution et tout ce qu'on peut voir, comprendre et surveiller depuis l'espace. Verpop est un événement organisé par Etopia, Centre de recherche et d'animation en écologie politique.